On va se le dire, l'aube du premier jour de la semaine, c'est vraiment rarement un moment de grâce.
Ah bah non, c'est clair.
Je veux dire, le réveil sonne, et paf, c'est souvent perçu comme une agression sonore. Ça nous arrache au sommeil, et ça nous jette directement dans une espèce de machine à laver, d'obligation, de stress, d'anticipation anxieuse.
Ouais, la fameuse angoisse du lundi.
Exactement. Et la norme sociale, elle voudrait qu'on bondisse du lit, genre super motivé, prêt à conquérir le monde, en ignorant totalement le poids mental qu'on a accumulé.
Sauf que, biologiquement parlant, l'organisme humain, il n'est pas du tout conçu pour cette transition binaire. C'est beaucoup trop brutal.
C'est ça, le corps ne suit pas.
Non, il ne suit pas. Ce réveil soudain, ça déclenche très souvent une grosse décharge immédiate de cortisol.
L'hormone du stress.
Voilà, l'hormone du stress. Le cerveau archaïque, lui, il interprète cette alarme et toute la cascade de pensées qui vient avec, non pas comme le début d'une banale semaine de bureau, mais comme une série de menaces immédiates. Donc le système nerveux, il passe direct en mode survie.
Mode survie, oui. Et face à ça, la réponse habituelle de notre société moderne, bah, c'est l'injonction à la performance. Il faut accélérer, il faut optimiser, il faut faire abstraction d'anxiété.
C'est ce qu'on nous répète sans cesse, oui.
Et c'est justement ce qui rend notre sujet d'aujourd'hui, je trouve, absolument captivant. On va se pencher sur un document qui fait, eh bien, exactement l'inverse de cette injonction à la performance immédiate.
Tout à fait. C'est un document vraiment riche.
C'est la transcription d'une émission de radio qui a été diffusée aujourd'hui même. Donc nous sommes le lundi 27 juillet 2026. L'émission s'intitule « Tambour parlant, communication ». Prière du lundi, foi, espérance et force intérieure.
Un titre assez évocateur.
Très évocateur. C'est diffusé sur le réseau Radio Tam Tam Africa, présenté par Félicité Amania Ravincent et réalisé par GV. C'est un texte super dense qui est structuré un peu comme une prière et une méditation matinale.
Oui, avec une architecture très spécifique.
Et juste pour clarifier les choses tout de suite pour ceux qui nous écoutent, notre démarche ici, ce n'est pas du tout d'évaluer la théologie de cette émission.
Non, pas du tout.
On ne valide pas, on ne rejette pas les croyances religieuses qui y sont exprimées. On va plutôt regarder sous le capot de ce moteur rhétorique. Notre mission, c'est de comprendre par quel mécanisme psychologique et linguistique précis ce texte arrive à fortifier l'esprit de son auditoire pour affronter la semaine.
C'est vraiment l'approche la plus enrichissante pour ce type de source. Qu'on parle d'un discours politique, d'une méditation laïque ou d'une prière religieuse, l'architecture d'un texte qui est conçu pour mobiliser les ressources intérieures, ça obéit à des règles fascinantes.
Des outils culturels en somme.
C'est ça. On est face à un outil culturel pensé pour opérer une sorte de réinitialisation mentale face à une réalité souvent difficile.
Ok, décortiquons tout cela. Le texte, il attaque le problème de front. Mais alors, dès les toutes premières secondes.
Oui, il ne perd pas de temps.
Il cible ce que l'animatrice appelle les fardeaux invisibles. Elle énumère des choses très spécifiques. Elle parle de souffrances silencieuses, d'inquiétudes familiales, de difficultés professionnelles, de cette fatigue que personne ne voit.
Cette fatigue invisible, oui.
J'ai vraiment l'impression que cette liste, elle n'est pas posée là par hasard. Pour moi, c'est un peu comme un sas de décompression pour les plongeurs.
C'est une excellente analogie.
Quand on remonte des profondeurs, on ne peut pas juste jaillir à la surface directe, sinon on risque un accident grave. Eh bien, le lundi matin, c'est une remontée à la surface. Et entendre une voix nommer cette fatigue, ça offre, croyant ou non, un vrai palier de décompression émotionnelle.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'inversion totale de la formule classique de motivation.
Comment ça ?
La plupart des discours dits inspirants, ils commettent une erreur neurobiologique majeure. Ils sautent directement à la résolution du problème.
Ah oui, le fameux « Allez, motive-toi, la vie est belle !»
Exactement. Il projette un positivisme totalement artificiel. Le problème, c'est que le cerveau humain, quand il est baigné de cortisol et d'anxiété, comme on le disait, il rejette cette positivité forcée. Il l'identifie comme fausse ou tout simplement non pertinente par rapport au danger qu'il perçoit.
Ça sonne faux, quoi.
C'est ça. Alors que ce texte, il utilise une stratégie beaucoup plus sophistiquée, qui s'ancre vraiment dans la psychologie de la validation. En verbalisant la souffrance, en disant littéralement, en gros, « je sais que vous êtes épuisé, je sais que c'est difficile », l'émission signale au cerveau de l'auditeur qu'il a été entendu.
Et ça, ça calme le jeu.
Absolument. Cette simple reconnaissance externe, ça désarme une énorme partie des mécanismes de défense psychologique.
C'est fou, ça. Et justement, une fois que ces défenses sont abaissées par cette validation, l'animatrice introduit une citation biblique du livre d'Ésaïe qui dit en substance « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Une affirmation de présence protectrice, oui.
Et juste après, elle donne une consigne physique assez surprenante pour de la radio. Elle demande aux auditeurs de prendre quelques instants de silence et de respirer profondément. On passe de la théologie pure à une instruction physiologique de base.
Mais le pont entre le spirituel et le biologique, il est particulièrement bien exécuté ici. Parce que l'instruction d'inspirer et d'expirer profondément, ce n'est pas juste une métaphore d'abandon spirituel.
C'est physique.
Totalement physique. Sur le plan physiologique, la respiration profonde stimule le nerf vague, ce qui active le système nerveux parasympathique.
Le système du repos, si je me souviens bien.
Exactement. Celui qui gère le repos et la digestion. C'est l'antidote naturel, le contrepoids à cette hypervigilance du matin. En ralentissant le rythme cardiaque par la respiration, le corps envoie un signal très clair au cerveau. Attention, la menace n'est pas immédiate, tout va bien.
Donc on hack un peu la machine.
C'est un peu ça. Et du coup, avant même d'entrer dans le corps de la prière d'intercession, la personne qui écoute l'émission est physiologiquement ramenée à un état de calme. Elle est dans une réceptivité optimale.
C'est redoutable d'efficacité comme préparation mentale. Le corps s'apaise, la douleur est reconnue. Mais juste après cette phase super intime d'introspection, le texte fait un mouvement de caméra spectaculaire.
Il élargit la focale, oui.
D'un coup, il embrasse le monde entier. L'animatrice invoque d'abord la Sainte Trinité, puis elle demande une protection pour la famille, pour les collègues de travail. Et paf, les frontières explosent.
On passe à une toute autre échelle.
C'est ça. La prière s'étend aux opprimés, aux malades, aux victimes de guerre. Elle formule une bénédiction très spécifique pour l'Afrique, pour sa diaspora mondiale et finalement pour tous les peuples, en allant jusqu'à demander la sagesse pour les dirigeants de ce monde.
Cette expansion de conscience, c'est vraiment ce qui structure toute cette deuxième partie. Le mouvement y part du microcosme, donc la personne seule devant sa radio, pour aller vers le macrocosme géopolitique et historique.
Et j'imagine que ça joue sur nos biais cognitifs, non ? La relativité de nos propres problèmes.
Comment ça, la relativité ?
Bah, si mon angoisse du lundi matin, c'est, je sais pas, un retard dans les transports ou un dossier bureaucratique en retard, le fait d'entendre parler des victimes de guerre mondiale, de la diaspora entière, ça place mon petit problème dans un dossier gigantesque.
Oui, ça remet en perspective.
Mais là, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet inverse ? Est-ce que cette gigantesque mise en perspective ne risque pas de diluer le réconfort personnel ?
C'est-à-dire ? D'écraser la personne ?
Voilà. Si je suis au bord du burn-out, entendre parler des souffrances du monde entier, ça pourrait me générer de la culpabilité, non ? L'idée que ma propre petite fatigue est insignifiante et que, au final, je n'ai même pas le droit de m'en plaindre ?
C'est une excellente question. Mais si l'on relie cela au contexte global de la sociologie des communautés et surtout à la psychologie de la résilience, on comprend vite que l'objectif ici, ce n'est pas du tout la minimisation par la culpabilité.
C'est quoi alors ?
C'est la mutualisation de la charge. Le concept de souffrance partagée. Tu sais, le sentiment le plus destructeur quand on souffre au quotidien, c'est l'isolement radical.
L'impression d'être seul au monde avec ses problèmes.
Exactement. L'illusion d'être le seul individu à lutter contre l'adversité. En tissant ce réseau de prières, qui part des simples collègues de bureau pour aller jusqu'à l'échelle continentale et diasporique, le texte brise cet isolement. Il construit ce qu'on appelle une communauté de destin.
Donc le poids ne devient pas plus léger parce qu'il est jugé insignifiant.
Non.
Oui, mais parce qu'il est porté par une multitude, en fait. Le fardeau personnel s'intègre à un récit collectif immense.
C'est exactement le cœur de la mécanique. La personne qui écoute n'est plus juste un employé isolé, stressé par sa semaine. Elle devient un maillon d'une chaîne humaine, historique, géographique, spirituelle, qui fait face à l'adversité dans son ensemble.
Ça donne presque une dimension épique à la semaine de travail.
Complètement épique. Se lever, affronter ses galères financières ou professionnelles, ça devient une participation active à un effort collectif de dignité. Et c'est particulièrement puissant quand un média s'adresse à une diaspora.
Oui, le lien symbolique.
Voilà, le besoin de reconnexion et de solidarité par-delà les frontières. C'est un enjeu identitaire majeur. La radio, dans ce moment précis, elle agit comme un feu de camp virtuel autour duquel les gens se rassemblent pour puiser de la force dans le nombre.
Un feu de camp virtuel, j'aime beaucoup l'image. Et ça explique pourquoi, juste après ce grand tour d'horizon mondial, l'émission entame sa troisième phase, qui s'intitule « Méditation du jour ».
Il faut bien redescendre sur Terre, oui.
Parce que le lundi, il est toujours là. Le texte doit ramener l'auditeur à sa réalité très concrète, très pratique. Le registre glisse de l'universel vers le pragmatisme absolu.
Avec des conseils très clairs.
Super clairs. L'animatrice exhorte à ne pas laisser les doutes freiner les ambitions. Elle rappelle que chaque petit pas compte. Et surtout, elle aborde la gestion de l'échec. Elle dit que si une porte reste fermée, c'est peut-être qu'une autre voie se prépare. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ?
Cette séquence, c'est la traduction sur le terrain de la force qu'on a accumulée dans les étapes précédentes. C'est un peu un mode d'emploi mental pour gérer les échecs et les frictions qui, inévitablement, vont survenir dans la semaine.
Les fameuses portes fermées ?
Oui, la métaphore de la porte fermée est centrale pour comprendre cette philosophie de l'action.
En lisant cette partie des sources, moi j'ai une image très précise qui m'est venue en tête. C'est la différence de mentalité entre un sprinteur et un marathonien.
Oh, c'est très juste ça. Développe.
Eh bien, le sprinteur, il opère dans un monde où il faut la perfection immédiate. Le moindre faux pas au départ, une petite bourrasque de vent, eh ben, sa course est ruinée. L'objectif, c'est l'immédiateté du résultat. Franchir la ligne tout de suite.
Alors que le marathonien ?
Le marathonien, il intègre la difficulté dès le départ dans son modèle mental. Il sait, il accepte qu'il y aura des kilomètres douloureux, des crampes, des doutes immenses. Son succès à lui, il ne se mesure pas à l'absence d'obstacles, mais plutôt à sa posture, à sa constance, à sa capacité à gérer l'effort.
Il ne vise pas un parcours sans faute.
Voilà, et le texte semble vouloir forger cette mentalité de marathonien chez l'auditeur. La porte qui claconnait un mardi après-midi, c'est pas la fin de la course. C'est juste, un kilomètre un peu plus difficile que prévu.
Cela soulève une question importante sur la matrice philosophique derrière tout ça. Parce que oui, il y a la dimension théologique, l'idée de la volonté divine qui prépare un autre chemin. Mais au-delà de ça, on trouve une résonance frappante avec la philosophie stoïcienne de l'Antiquité.
Les stoïciens, genre Épictète ou Marc Aurèle ?
Exactement. Le stoïcisme, ça repose fondamentalement sur ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle, c'est-à-dire la distinction vitale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas.
Donc, séparer l'effort personnel des circonstances extérieures qu'on ne peut pas maîtriser.
C'est ça. La porte qui reste fermée, le refus d'un client, une décision hiérarchique arbitraire, tout ça, ce sont des variables externes. Ça échappe à notre contrôle direct. Et si l'individu attache son estime personnelle uniquement à l'ouverture de ses portes.
Il est foutu, enfin, il est condamné à l'angoisse perpétuelle.
Complètement. Ce que la méditation propose ici, c'est de déplacer le curseur de la réussite. Le véritable succès, la réussite, ça devient ce qui dépend de l'individu. Sa capacité à faire ce petit pas, à maintenir ses valeurs malgré les doutes, à préserver sa dignité de marathonien.
C'est un vrai bouclier psychologique, en fait.
Massif, oui.
En définissant la victoire non plus par le résultat brut, mais par la résilience de l'effort, l'échec d'une initiative n'est plus une condamnation de la valeur de la personne. Ça devient juste une donnée environnementale qu'il faut contourner.
Et ce bouclier mental qu'on vient de construire pendant toute l'émission, à travers la validation du début, la solidarité mondiale ensuite, puis cette définition stoïcienne de l'effort, eh bien, il trouve sa conclusion dans les toutes dernières minutes.
Une conclusion assez surprenante, d'ailleurs.
Oui. L'émission se termine logiquement par des vœux. Des vœux de santé, de sagesse, de sérénité pour accepter ce qu'on ne peut changer et de courage pour transformer le reste. Du grand classique. Mais soudain, le discours opère un virage saisissant vers la réalité matérielle, la réalité de l'industrie médiatique. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
C'est le moment où le sanctuaire spirituel immatériel révèle qu'il est aussi une entité médiatique bien concrète.
Exact. L'animatrice met en avant le slogan du réseau Radio Tam Tam Africa. Le slogan, c'est « La parole est une force ». Et dans la foulée, bam, elle lance un appel explicite aux dons.
Un appel à la générosité de l'auditoire.
Elle demande un soutien financier pour une mission très précise, contribuer à préserver, je cite, « une parole africaine libre et indépendante ». C'est un retour brutal à la réalité économique. Le pourvoyeur de réconfort révèle soudain sa propre vulnérabilité.
Et c'est un dénouement d'une grande richesse sociologique, je trouve.
Ah oui.
Spirituelle et psychologique pour affronter l'adversité. Et là, cet appel final révèle la nature symbiotique de la relation entre le média et son public.
Une relation à double sens.
Totalement. Le slogan « La parole est une force », ça dépasse la simple métaphore religieuse. Ça devient un vrai manifeste éditorial. Ça dit pour qu'une parole libre, spécifique à l'expérience africaine, puisse continuer d'exister et de tisser cette solidarité dont on parlait.
Ce fameux feu de camp virtuel.
Exact. Pour que ce feu de camp continue de brûler, il doit être soutenu matériellement. L'indépendance spirituelle de l'auditoire est liée à l'indépendance financière de la station.
Donc la structure médiatique, elle demande à son auditoire d'appliquer immédiatement la philosophie du marathonien qu'elle vient de lui enseigner.
C'est brillant quand on y pense.
Elle donne à l'auditeur la force d'affronter sa semaine, puis elle lui dit « Bon, maintenant, donnez à notre station la force de survivre à la sienne face aux contraintes économiques. »
C'est exactement ça.
Du coup, l'acte de faire un don, ça n'est plus juste une transaction commerciale banale pour un service, ça devient la première mise en pratique de l'action individuelle au sein de la communauté. Soutenir cette voie, c'est participer concrètement au maintien de l'espace mental qui permet à tout le monde de rester fort.
C'est un cercle vertueux parfait. Le message forge la résilience de l'individu et l'individu, par son soutien financier, garantit la survie du messager.
C'est donnant-donnant.
Oui, dans notre paysage médiatique hyper mondialisé, posséder et maintenir ses propres canaux de transmission, c'est littéralement un enjeu de survie culturelle. C'est l'illustration parfaite de la manière dont une initiative spirituelle s'inscrit de plein pied dans les luttes réelles de notre monde contemporain pour le contrôle de l'information.
C'est fascinant le voyage qu'on vient d'accomplir à travers ce simple document d'un lundi matin de juillet 2026. Il est d'une densité assez dingue.
C'est une vraie leçon de rhétorique.
En disséquant tout ça, on voit comment un esprit peut être réarmé pour affronter le stress. Ça commence par la biologie, la validation pure, en apaisant le système nerveux et en reconnaissant le fardeau invisible. Ensuite, ça neutralise l'isolement en nous connectant à la diaspora et aux luttes mondiales.
Puis ça recadre l'idée même du succès. Avec cette approche stoïcienne de l'effort.
Voilà. Et pour finir, ça ancre toute la démarche dans la réalité tangible d'une radio africaine qui se bat pour son indépendance.
L'architecture de cette émission, elle démontre bien qu'au-delà de la foi pure, il y a une vraie science de l'encouragement.
Une mécanique de précision.
Oui. Les mots choisis, l'ordre de présentation, le glissement progressif de l'intime à l'universel, tout, absolument tout, concourt à modifier l'état cognitif de celui qui écoute. Ça prouve que la structure de l'information qu'on consomme au réveil, elle façonne de manière mesurable l'état d'esprit pour les jours à venir.
Ce qui nous amène à une petite réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Ça fait écho direct au slogan de Radio Tam Tam Africa. La parole est une force. On a bien vu comment l'émission utilise cette force via une voix externe, celle de la radio.
Oui, l'impact de l'écoute.
Mais au milieu neurologique et psychologique, ce pouvoir des mots, il ne se limite pas à l'écoute passive. La question qu'on peut se poser, c'est si entendre ces mots peut modifier notre biochimie, quel serait l'impact d'une prise de parole active ?
Oh, c'est une excellente piste !
Si le simple fait de verbaliser à voix haute, soi-même, ses craintes, ses objectifs, ses espoirs, chaque début de semaine même, tout seul dans son salon, sans aucun cadre religieux, est-ce que ça n'aurait pas le pouvoir physique de reconfigurer la manière dont notre cerveau appréhende les obstacles ?
Si la parole est une force, s'en emparer soi-même, c'est s'approprier cette force.
Exactement. Prendre soi-même la parole pour dicter l'intention de sa semaine, c'est peut-être le levier d'action le plus sous-estimé de notre quotidien. C'est sur cette petite idée d'expérimentation personnelle qu'on va clôturer cette plongée analytique d'aujourd'hui.
Une belle conclusion.
Merci Sam. Il est essentiel, je crois, de garder l'esprit curieux face aux sources d'informations qu'on consomme tous les jours, parce que la mécanique des mots cache toujours des structures insoupçonnées. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.
À très bientôt. Le monde regorge de textes qui ne demandent qu'à être décryptés.